Ah, bonjour tout le monde. Très heureux de voir ce magnifique groupe devant moi ce matin et d'en faire partie. Mon message d'aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire de Jacob dans le livre de la Genèse. Quelle histoire intéressante! Et mon titre d'aujourd'hui, « Pas de paradis sur cette terre ». Pas de paradis sur cette terre, on va parler de choses importante, pas complètement toujours réjouissante, mais au fond, tout est toujours réjouissant dans le Seigneur, parce qu'il utilise même les choses difficiles dans nos vies, on va le voir. Jacob arrive à Haran après avoir fui. Mais en fait, je voulais commencer avec un autre souvenir de nos vacances à Terre-Neuve. Cheryl et moi, on est revenus d'un beau voyage et une chose qui m'a frappé en tout cas, je pense Cheryl aussi, là-bas, c'est l'historique de cette région du Canada, un historique de très grande pauvreté, particulièrement dans les villages de pêche sur les côtes. Et les pêcheurs qui ont immigré dans ce pays, ce rude pays de Terre-Neuve, venaient eux-mêmes de pays très pauvres et de situations très pauvres. On pense à l'Irlande en particulier, mais d'autres endroits aussi. Dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et ils allaient là-bas, une chose qu'ils savaient, c'est les eaux avec les plus poissonneuses sur la planète, les eaux autour de Terre-Neuve. Mais en arrivant, ils ont eu très souvent une mauvaise surprise. Ils ont été exploités dans ce nouveau pays. Il y avait des commerçants, des hommes d'affaires très riches, mais qui sont devenus très riches, basés dans la capitale. Ça, cette ville-là s'appelle Saint-Jean, jolie, jolie petite ville. Mais ces commerçants-là, autrefois en tout cas, leur compagnie soumettait les pêcheurs dans les petits villages à un système qu'on appelle de troc. Et il disait aux pêcheurs, « Mais regardez, donnez-nous vos beaux poissons et en retour, on va vous donner pas de l'argent, mais on va vous donner des coupons que vous pouvez utiliser dans notre compagnie. On va vous donner de la nourriture, on va vous donner des outils, on va vous donner du matériel de pêche. Bref, tout ce qu'il vous faut pour continuer à travailler pour nous. » Et les pêcheurs sont restés dépendants de la compagnie, limités dans leurs achats à ce que la compagnie voulait bien leur offrir, et à la longue, ils se sont appauvris, en travaillant toujours de plus en plus fort. Voilà un exemple, parmi tellement d'exemples, malheureusement, dans notre monde, de gens qui se déplacent avec beaucoup de sacrifices pour trouver un avenir meilleur, et ils trouvent une situation difficile dans leur nouvel endroit. C'est normal de vouloir rechercher un avenir meilleur. Tout le monde le fait, tous les chrétiens le font, et même tous les personnages bibliques, presque, le font aussi. C'est normal, et Dieu nous bénit dans cette quête-là. Mais la parole de Dieu nous apprend que ce n'est pas le but ultime de la vie chrétienne ou de la vie avec Dieu. Je pourrais résumer ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans l'histoire de Jacob à Haran par ce petit paragraphe. Il n'y aura pas de paradis sur cette terre pour moi. Désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est vrai. Il n'y aura pas de paradis sur terre pour moi. Ma situation peut s'améliorer, merci Seigneur, mais le mal est toujours présent et a son emprise. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours là pour me montrer à son enfant, comment marcher avec lui, car il est son plus grand trésor. Ben, c'est ça qu'on apprend dans les difficultés de notre nouvelle situation. Mon plus grand trésor, finalement, c'est Dieu lui-même. Amen. Bien, Je ne l'ai pas encore montré dans le texte, mais je vous le dis d'avance, c'est ça qu'on va voir. Alors, on va lire l'histoire de Jacob. Et on a déjà prié que Dieu nous rende attentifs à sa parole. On va lire, et vous pouvez tourner au début de Genèse, chapitre 29, si vous avez votre Bible avec vous. Genèse, chapitre 29, et suivez avec moi. Sinon, vous pouvez juste écouter attentivement. Donc, on avait vu, Jacob a dû fuir. Et voici sur la carte le voyage entre la maison, la tente, le campement de ses parents, et là où il s'en va. Jacob se remit en marche. Hein, on avait vu qu'il s'était arrêté à Bethel hein, la semaine passée. Mais il se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et à côté, trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits que l'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à la place sur l'ouverture du puits. Alors, Jacob a demandé aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Et il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nakhor? » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Et il leur demanda, « Est-il en bonne santé? » Et ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et en plus, voici sa fille Rachel qui arrive avec son troupeau. Jacob dit, il fait encore grand jour et ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. Ils répondirent, nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Jacob leur parla encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha et il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et il fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et il se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Elle accourut l'annoncer à son père. Dès que Laban, le père, eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis, il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des os, les mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Et il dit donc à Laban, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban lui dit, « Bien, je préfère de la donner à toi qu'à un autre homme, alors reste avec moi. » Ainsi, Jacob servit Laban pendant 7 ans, et ils lui parurent ces 7 ans comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. » Alors Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. N'oubliez pas, dans les mariages, il y avait beaucoup de vin, on buvait beaucoup, et puis la femme était voilée, et puis la nuit de noces, ça se passe dans la noirceur totale, pour vous donner un peu de contexte. Par contre, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Et Laban lui dit, « Mais ça se fait pas. Ce n'est pas la coutume chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras pour moi pendant encore 7 autres années. » Et c'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna sa fille Rachel comme femme. Laban donna sa servante Bilha comme servante pour Rachel. Et Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préféra même à Léa, et il servit encore Laban pendant 7 nouvelles années. Je vais juste lire quelques versets de plus. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel demeurait stérile. Et Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba enceinte encore et mit au monde un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé encore celui-ci. » Elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit, « Cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pour ça qu'on l'appela Lévi. Et finalement, elle tomba enceinte et mit au monde un 4e fils. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Judas. Ça, c'est des mots hébreux. Les noms des enfants signifient quelque chose à chaque fois. Puis, elle cessa d'enfanter. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va arrêter là. Wow, quelle histoire! Quelle histoire! Alors, moi, je voudrais attirer votre attention à 6 éléments de cette histoire qui nous parlent de la difficulté de cette immigration de notre ami Jacob, qui est aussi une image, peut-être, de ton immigration à toi, réelle, parce que beaucoup d'entre nous viennent d'un autre pays. On est venu à Montréal pour un avenir meilleur. Mais ça peut être aussi une image de ce qui se passe actuellement dans ta vie chrétienne. Peut-être pas à un niveau géographique, mais à un niveau spirituel. 6 choses qui se passent ici que je trouve importantes. Premièrement, l'apparence du début pour Jacob, l'apparence du début est idéale. Il arrive à Haran. Et il est tellement heureux. Il découvre de la prospérité, des gros troupeaux autour d'un puits. C'est une vie qu'il connaît, puis ça marche. Et puis, ce très bel accueil familial qui touche son cœur. Rachel d'abord, et ensuite Laban, son oncle. Oh, ça doit lui faire du bien, après avoir été obligé de fuir, et après son voyage où il était seul dans la nature. Mais surtout, la belle femme qui arrive au bon moment, Rachel, une jeune femme qu'il trouve parfaite pour lui. Et le timing de son arrivée au puits, c'est comme idéal. Et ça, quand notre cœur est prêt pour l'amour, ça nous fait du bien. La personne arrive au moment parfait. Et l'autre chose qui arrive à Jacob, que je trouve drôle un peu, mais on est des humains quand même, mais regardez le succès qu'il a avec Rachel. Sa force physique au bon moment. Hein? La pierre qui ferme le puits, hein? Une pierre qui est par terre, comme ça, normalement, ça dit que c'est plusieurs bergers qui doivent la rouler pour que tous les troupeaux puissent boire. Puis lui, il se précipite, il l'enlève tout seul. Tout seul! Wow! Et juste pour elle. Alors, il ignore les autres bergers, les autres troupeaux. Et puis, il fait boire Rachel et le troupeau du père de Rachel. Wow! Donc, il y a de quoi impressionner la jeune femme. Mais non seulement ça, il exprime de l'affectivité et de l'émotion. Hein? Il l'embrasse. Et quand il lui parle, il se met à pleurer. C'est comme... Est-ce que c'est pas bien pour une jeune femme? Un homme qui se montre fort, il se montre prêt à aider, mais en plus, il montre de l'affection physique appropriée, et en plus, il est capable d'exprimer ses émotions. Pour moi, il me semble, est-ce que je me trompe ou c'est le package deal pour une jeune fille? Alors, l'expérience du début est idéale pour lui, mais il y a des réalités sombres. Et la deuxième chose que je veux mentionner, qui est la plus évidente, son oncle Laban, en réalité, c'est un exploiteur. Son accueil est chaleureux, mais il cache ses vraies motivations. Laban voit en Jacob qui arrive une occasion de s'enrichir. C'est terrible, parce que c'est son neveu. Même si ce n'était pas son neveu, ce serait terrible. On a déjà vu Laban en action plusieurs décennies avant. C'est le serviteur d'Abraham qui arrive, probablement au même puits. Et Laban avait spoté des yeux les bijoux en or que ce serviteur avait amenés parce qu'il venait pour trouver une femme pour le fils d'Abraham. Et Laban, on le voit, se mobiliser pour accueillir le serviteur avec aussi beaucoup de courbettes et autres. Et il fait la même chose ici aussi, mais avec une stratégie ou une... Il a une pensée différente. Il dit, ben voilà un jeune homme qui a de la force physique, qui est prêt à servir. Il semble obéissant, il semble comme loyal à la famille. Il arrive ici, il veut trouver une femme, mais il n'a pas d'argent avec lui. Il ne peut pas payer la dot. Je vais en faire mon serviteur, pour ne pas dire mon esclave. Et Jacob va l'être pendant 14 ans. 14 ans! Et ça fait penser à des avertissements que la Bible nous donne. Quand on arrive dans un milieu où on ne connaît pas, un milieu où on peut être vulnérable, malheureusement, il y a des gens concernant lesquels la parole de Dieu nous dit « Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. » Il y en a des hommes et des femmes qui t'accueillent avec des fausses apparences. Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Et ça s'applique ici à Laban. Ça s'applique peut-être à une situation que tu vis dans ta vie. Il faut que l'Esprit Saint, en tant que chrétien, qu'on soit à son écoute, pour qu'il nous dit « Fais attention, peut-être qu'il y a une offre trop belle pour toi. » Cheryl et moi, on vient d'acheter une nouvelle voiture, nouvelle voiture usagée. On est content, on espère qu'on a bien choisi, mais c'est aussi un contexte où ce proverbe s'applique. Parce que les vendeurs, là, ils t'accueillent vraiment avec beaucoup d'émotions puis de compliments. C'est beaucoup de compliments. tout ce que tu dis est beau, mais il faut que l'esprit... Il faut avoir de la sagesse humaine et on peut aussi faire appel à la sagesse divine, nous, les croyants. Mais aussi, il faut demander au Seigneur, en tant que croyant, donne-moi que je ne sois pas moi comme Laban, que mes gestes de générosité ou d'accueil envers les autres ne soient pas... qu'il n'y ait pas des motivations égoïstes cachées. Hein, il y a un verset qui dit que votre amour soit sans hypocrisie. Nous aussi, on peut être un peu comme Laban, que le Seigneur nous purifie et nous montre aussi quelles sont les bonnes motivations que nous devons avoir dans la vie. Par ailleurs, je continue avec Laban. Et oui?
Tu l'as bien choisi pour
ton char. Tu l'as vu?
Oui.
Il est beau, hein? Oui. C'est peut-être pas une pause publicitaire. Ça, c'est Timothée. Elle n'est pas nouvelle, mais elle marche comme si elle était neuve, oui. Mais moi, je veux revenir à Laban. Une autre chose qu'il faut mentionner qui est choquant, c'est qu'il ne valorise pas la famille comme il doit. Dans une culture où c'est sacré, la famille, il privilégie pas l'amour et la solidarité qui, normalement, doit exister dans nos familles. Surtout à cette époque-là, encore plus. Pour lui, ce qui compte, c'est le gain financier. Il va même utiliser ses deux filles pour s'enrichir lui-même. Et on va voir un peu plus tard comment ça les blesse profondément. Elles vont dire à leur mari, parce qu'à un moment donné, son mari dit, « OK, on va planifier notre fuite, parce qu'on est comme des esclaves ici. » Et il leur demande, « Êtes-vous d'accord qu'on va s'enfuir? » Et elles répondent ceci à leur mari, « Avons-nous encore une part et un héritage avec notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? » Comme c'est triste, hein? Il traite Laban comme un esclave, il traite ses filles comme de la marchandise. La réalité est sombre parce qu'il y a des personnes mauvaises, au cœur mauvais. Toute personne peut être rachetée par Christ et par Dieu. Troisième détail du texte que je veux mentionner ici, Jacob moissonne ce qu'il a semé. Alors, des fois, le Seigneur, dans une nouvelle situation, il va nous faire subir quelque chose pour nous apprendre une leçon. Ne fais pas aux autres je veux te faire goûter à qu'est-ce que tu as fait vivre aux autres. C'est ce qui arrive à Jacob ici. Il se fait tromper de manière grotesque par son hôte, par son oncle, et c'est la même chose qu'il a fait subir à son frère. C'est le retour de la médaille. Alors, Dieu ne se venge pas de nos péchés passés, mais Dieu, par amour pour notre bien, des fois, nous fait vivre. Qu'est-ce qu'on a peut-être l'habitude de faire vivre aux autres pour nous apprendre? Arrête. Arrête. Ça fait mal, mais c'est pour que je progresse. Le Seigneur nous prévient. Celui ou celle qui sème pour sa chair, ça veut dire son égoïsme, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire selon ce que l'Esprit de Dieu nous dit, donc pour le bien, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quatrième détail du texte, de ce texte d'immigration, un autre côté difficile. Jacob n'a pas encore appris à prier. Il vit comme un homme naturel, un homme charnel. Il prend des décisions sur des coups de tête selon ses désirs, ses émotions, sans prier. Et je dis ça parce que le texte ne nous dit pas tout, mais quand on compare l'histoire de Jacob qui arrive au puits, puis l'histoire du serviteur d'Abraham qui arrive au puits, qui est, c'est comme dans le même livre, ce qu'on observe, c'est que le voyage du serviteur d'Abraham, il est baigné dans la prière. Et c'est frappant. Le serviteur consulte Dieu à chaque décision. Le serviteur se prosterne pour prier, même comme petit du monde autour de lui. Le serviteur remercie Dieu pour chaque réponse à la prière. On ne voit pas de ça avec Jacob ici. Et ce n'est pas qu'il commet des choses mauvaises, c'est qu'il agit de manière humaine seulement. Vous connaissez en anglais, ceux qui connaissent l'anglais, quand on dit « Oh, I've got this », ça veut dire « Je sais comment agir dans cette situation. Je sais quoi faire. Je me mets en autopilote et puis j'y vais par mes propres forces. » Ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal, mais ça veut dire que quand il y a du mal autour de nous, on ne va peut-être pas être attentif à ce que l'Esprit-Saint est en train de nous dire. C'est le cas de Jacob ici. Et c'est une leçon pour nous. Est-ce que Dieu est en train de faire de nous des personnes qui prennent le temps de l'écouter, même dans les situations où on se sent confiant? On m'avait dit une fois, si tu t'approches du micro pour annoncer la parole de Dieu un dimanche et puis que tu te dis « Ah ben, je vais me mettre en autopilote parce que ça fait tellement de fois que j'ai prêché, que je sais quoi faire », ben, sache qu'il y a un danger. Il faut que toujours, quand tu t'approches de ton ministère, ça s'applique à tous les ministères dans l'Église, que tu sois dans la prière. Seigneur, j'ai de la crainte. Agir en ton nom, agir pour toi, c'est toujours au-delà de mes forces. Remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est ce que Jacob est encore en train d'apprendre. Mais on voit que pour le moment, ce n'est pas encore en place. Et il va souffrir. Cinquième détail. Tout le monde dans cette histoire est déçu. Tout le monde dans cette histoire, tous les personnages sont déçus. Tout le monde espère trouver le bonheur. Personne ne va le trouver. Et des fois, on se sent un peu comme ça dans nos vies, dans nos situations. Peut-être que tu te sens comme ça dans ta situation actuelle. Mais il semble que nos vies ne devaient pas aller où tu... aller dans l'endroit où est-ce qu'on est rendu maintenant. C'est souvent comme ça dans la vie. Puis, comme je dis, ce n'est pas le plus important. Mais ici, il y a du monde qui sont malheureux. Les deux sœurs, premièrement, Léa et Rachel, leur situation est tellement triste. Elles souffrent beaucoup émotionnellement. Elles sont condamnées à une vie de compétition l'une avec l'autre. À cause d'un mariage, on va dire une bigamie, un mariage à deux femmes pour le même homme qui est organisé par leur père, pas par elles. Compétition, amertume, on voit qu'il y a de la hargne entre elles et ça se comprend. Pensons en particulier à Léa, la grande sœur. C'est tragique. Il y aurait plusieurs choses à dire pour parler de sa souffrance. On va voir comment Dieu travaille dans sa vie par la suite, comment Dieu montre son amour envers elle, mais en tout cas, sa situation n'est pas enviable. Forcée dans un mariage sans amour pour elle. Le but de tout ça, c'est que son père puisse exploiter son beau-fils plus longtemps. On peut se demander, je me suis demandé, je n'ai pas trouvé la réponse, pourquoi est-ce que Léa s'est laissée faire? peut-être que c'était pas évident de pour elle, pour comme jeune fille, de résister à un papa comme ça autoritaire. Peut-être qu'elle était déjà amoureuse de son mari, pas de son mari, mais de Jacob. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas sa décision à elle. Mais regardez aussi comment c'est triste. Dieu, dans sa compassion, il dit, OK, ben, je vais lui donner un bonus, je vais lui donner quelque chose de spécial. Il arrange les choses pour qu'elle puisse donner 4 fils à Jacob avant sa sœur qu'il a préférée. Et ça, c'est un grand honneur dans n'importe quelle culture, mais particulièrement à cette époque-là, un honneur social pour Léa. Mais on voit qu'au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle veut encore plus? C'est quoi? Que son mari l'aime. C'est ça qu'elle veut encore plus et elle l'aura pas. Elle l'aura pas. Et comme c'est triste d'entendre ce qu'elle dit, alors, après la naissance de son premier enfant, Ruben, elle dit, elle remercie Dieu. Oui, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Puis là, elle rajoute, et maintenant, mon mari va m'aimer. Non, c'est pas ça qui va arriver. Mais Dieu a d'autres choses pour elle. Bon, Laban qui est d'un patate, on va dire, il veut devenir riche et on verra qu'il ne deviendra pas riche comme il le veut. Jacob, lui, va devenir un genre de serviteur esclave pendant 14 ans. Et c'est triste aussi. Il a rencontré la femme de sa vie. Il l'aime passionnément, mais malheureusement, son amour avec elle va être drôlement compliqué à cause de ce que je vous ai dit. Donc, rien ne va être parfait dans ce beau monde. Même si normal, on travaille pour que ce soit le mieux possible. Et Dieu nous bénit là-dedans. Mais le plus important, tous sont en train d'apprendre à marcher avec Dieu et à vivre dans la prière. Et ça, c'est mon dernier point. On le voit dans la vie de Jacob, et ça, on va le voir plus tard. Pas encore. Mais on va voir qu'il va apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Et souvent, c'est quand on est désespéré qu'on se met à genoux, n'est-ce pas? Et qu'on commence à apprendre que Dieu répond à la prière, que Dieu veut qu'on ait une relation personnelle avec lui. On va le voir avec Rachel aussi. Et on le voit déjà ici avec Léa qui, dans la manière qu'elle réagit à la naissance de ses enfants, commence à apprendre, à prier, à remercier et à louer. Alors, je vais arrêter là. Ça fait longtemps que je vous parle, mais je vous rappelle juste le... Le résumé de ce qu'on a vu, il n'y aura pas de paradis sur cette terre pour moi. Ma situation va s'améliorer, je l'espère pour chacun de nous. Mais le mal est toujours présent et à son emprise. En fait, on vit en nous préparant pour un royaume qui est à venir, hein, où tout sera comme Dieu le veut. Mais en ce moment, Dieu est toujours là, pour me montrer comment marcher avec lui. Et c'est lui mon plus grand trésor. Amen. Alors, pensons à Jésus, qui est celui qui a renoncé au bien-être terrestre pour inaugurer le règne de son Père. Il y a un passage qui dit qu'il est devenu pauvre pour nous rendre riches, pour te rendre riche. Comment est-ce qu'il t'a rendu riche? Il t'a donné le salut, il t'a donné l'accès au royaume et il t'a donné une relation personnelle avec son Père. Il a sacrifié pour rendre ça possible pour moi. Et c'est pour ça que Philippiens 2:5 dit « Ayez la même pensée que celle qui était en lui. » Soyons prêts à faire des sacrifices, à prendre des décisions qui peut-être ne mettent pas juste mon bien-être immédiat en premier. Hein, Paul nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Garde aussi l'espérance dans la difficulté. Es-tu en train de vivre une situation difficile? Garde l'espérance. Peut-être que tu as aussi été déçu par quelqu'un que tu espérais aller t'aider. C'est ce qu'il t'avait promis, il ou elle. Finalement, la personne s'intéresse à son propre gain. La parole te dit, garde courage. Dieu s'y connaît dans ces cas-là. Il va te guider pour t'en sortir, comme il le fait avec Jacob ici. J'ai un petit témoignage, c'est vraiment la dernière chose que je veux dire. Une femme chrétienne que j'avais entendue, qui avait témoigné dans une église, et elle avait quitté un pays pauvre pour travailler en Europe. Dans un pays riche, elle avait trouvé du travail comme une bonne, une domestique, dans un foyer riche. Mais malheureusement, elle était mal tombée et elle se faisait exploiter et maltraiter. Et elle avait témoigné dans l'église qu'à un moment donné, elle avait pu dire courageusement à son employeur qui ambitionnait de plus en plus, elle avait dit, « Monsieur, je travaille pour vous en ce moment avec loyauté et même avec soumission, mais c'est parce que c'est mon Dieu qui me le demande. » C'est à lui que j'appartiens, pas à vous. Et j'ose croire que ça l'a marqué, cet homme-là. Et j'ose croire que ça avait amélioré son comportement. Je l'espère, en tout cas. J'ose croire aussi que Dieu a conduit cette sœur vers une meilleure situation. Mais en tout cas, je veux juste vous demander qu'avec moi, vous tourniez vers le Seigneur maintenant pour lui demander courage dans votre situation, pour lui demander de juste focaliser sur lui comme votre vrai trésor et lui, il va vous montrer quoi faire pour marcher avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier cela avec moi maintenant? Si oui, je vous invite à juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier cette prière-là avec moi? Peut-être, quand on est en train de prier, on va fermer les yeux et je t'invite à lever la main pour dire, « Oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide dans cette situation. » Prions ensemble. Éternel, on a vraiment besoin de ton aide. Je lève la main. J'ai besoin de ton aide dans ma situation. J'ai besoin que tu me montres quoi faire. Peut-être aussi ça va bien. J'ai besoin que tu me montres comment je dois rester vigilant. Comment être à ton écoute. Merci parce que tu es ce Dieu qui veut me guider, comme tu l'as fait avec Jacob. Et qui veut me changer pour que je sois de plus en plus ton enfant qui t'écoute. Merci parce que ce que tu as pour moi, c'est si bon. Oh Père, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous te disons merci au nom de Christ. Amen.